Et oui, quand gastronomie et solidarité se rencontrent, cela donne effectivement les belles gamelles. C'est une association née à Toulouse au premier confinement et qui a repris du service avec le deuxième. Ça se passe dans les assiettes et ça fait chaud au cœur. On en parle tout de suite avec mes deux invités. J'accueille d'abord Alexandre Fox, il se bat avec son casque. Alexandre Fox est le directeur de l'association Les Belles Gamelles. Bonjour Alexandre.
Bonjour Isabelle.
Est-ce que vous nous entendez ?
Oui.
Tout va bien. Au téléphone avec nous également, le chef du restaurant Le Solide, Simon Carlier, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on vous entend bien, Simon ?
J'espère.
Vous nous entendez bien. Surtout pas d'oreillette, surtout le téléphone sur l'oreille. Alors tous les deux, hein, vous êtes la parfaite illustration que du positif, de la lumière peut jaillir de la période difficile que l'on traverse tous ensemble. On va pas se priver de la raconter, votre belle histoire. Elle s'appelle Belle Gamelle. Tout commence le 17 mars. C'est à l'annonce de la fermeture des restaurants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Simon ?
Écoutez, nous, on écoute le discours du président qui parle un petit peu d'un état de guerre.
Ouais.
Donc, nous, on se met
en
ordre de marche. Non, puisque je plaisante, mais effectivement, on connaissait vraiment pas grand-chose de cette pandémie. Moi, j'avais des contacts de docteurs dans différents hôpitaux qui craignaient une saturation, qui nous expliquaient que leur situation était assez compliquée puisqu'ils se retrouvaient à faire effectivement de gros horaires, hein, enfin, ce qui leur arrivait déjà auparavant. Mais là, en plus de faire des gros horaires, d'avoir cette pression sur les épaules, il n'y avait plus de restauration digne de ce nom pour eux. Alors, eux qui font des gardes de plus de 12 heures, quand on n'a pas ce petit, moment de réconfort, eh bien, ça devient un petit peu difficile.
Donc là, vous vous dites
donc,
quoi
on s'est les restaurants étaient à l'arrêt et on avait de la marchandise qui était dans nos frigos, hein, puisque là, l'annonce a été...
soudaine.
Très brutal.
Ouais.
Du coup, ben, j'ai appelé pas mal de copains restaurateurs pour voir ce qu'on pouvait faire et si ça intéressait les gens de produire quelques repas. Mais je voulais qu'on l'organise un petit peu pour avec les fournisseurs, avec si on pouvait récupérer un camion frigo pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et il se fait que j'étais avec Alexandre à ce moment, qui connaît mon enthousiasme, mais qui sait aussi que ça allait demander pas mal d'organisation. Et donc, il s'est proposé pour me filer un coup de main et pour organiser. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de besoins. Enfin, déjà, ça faisait déjà très plaisir aux soignants dans différents hôpitaux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi pas mal de public qui était vraiment laissé, qui était un peu mis de côté par cette crise. Alors, qui était bien sûr aidé par différentes associations sur le terrain. Mais c'est vrai que via cette crise, leur nombre a augmenté. Il y a eu des nouveaux publics qui ont été concernés par des problèmes alimentaires.
On comprend que dans un premier temps, ce sont les soignants. L'idée, c'est de... vous avez du stock, vous restaurateurs, vous avez du stock. Les soignants sont au taquet et mis à lourdes contributions. Vous leur concoctez des bons petits plats. Combien de restaurateurs au début sont dans la boucle ?
Oh, bah, très rapidement, on est arrivé à environ 35 restaurateurs.
35 restaurateurs, et donc vous leur faites des plats, ceux que vous faites dans votre restaurant. Je n'ai pas présenté votre restaurant, mais c'est de la gastronomie quand même.
Oui, solide, oui, c'est de la gastronomie. Alors là, bien sûr, l'idée, c'est de proposer des plats qui puissent être soit mangés froids, soit facilement réchauffables et mangeables. Un peu la directive des hôpitaux, mais qui a été aussi un peu la même en suivant, mais pour n'importe quel type de personne ayant besoin de cette aide, c'était des repas qui soient facilement réchauffables ou à manger froid. et un peu à n'importe quel moment, quoi.
Et alors, Alexandre Fox intervient pour mettre un peu de logistique et d'huile de coude dans tout ça. Les chefs sont en cuisine. À un moment donné, Alexandre Fox, vous vous dites, bon, les soignants, finalement, ce n'est pas eux qui ont le plus besoin. C'est ce que nous dit Simon Carlier, le chef du Solide. Il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à trouver de la nourriture. Et donc, c'est vers eux que vous dirigez votre action. Hein.
Oui, tout à fait. C'est à peu près au bout de 3 semaines, on s'est rendu compte en effet que les hôpitaux étaient surchargés. Il y avait un gros mouvement solidaire envers les soignants, donc autant des particuliers, des traiteurs, des boulangers, tout le monde venait leur apporter à manger.
Ouais.
Ils en avaient trop. Et à côté de ça, on nous signale que l'aide alimentaire, que la crise alimentaire est en train d'exploser, que beaucoup des bénévoles qui travaillaient dans ces associations, c'était des personnes âgées, ont été obligés de s'arrêter.
Plus de bras, ouais.
Le risque était trop grand. Et puis on s'est dit, on fait des bons petits plats, pourquoi pas les proposer à d'autres populations. Et là, il y a une première association qui commence à nous ouvrir la porte de certains hôtels de réfugiés où ces personnes n'avaient pas le droit de cuisiner. Donc, elles ne pouvaient pas recevoir les colis alimentaires qu'elles ont l'habitude de recevoir de la banque alimentaire ou des autres associations parce qu'elles ne pouvaient pas les transformer. Donc, leur livrer des plats froids ou réchauffables, c'était idéal pour eux. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, la banque alimentaire a vu ce qu'on faisait et nous a dit « essayez d'augmenter les capacités, on sera preneur ». Et petit à petit, on est passé de 200 repas par jour à 500 repas par jour, 7 jours sur 7. On est sorti un peu de chaque restaurateur qui travaille dans son coin, tout seul dans sa cuisine. Et on additionne les 50 plats de chaque restaurateur pour arriver à 250. Et il y a l'école Thierry Marx aux Mines et le Mine qui s'est ouvert à nous. On nous a filé un local
marché d'intérêt national.
Ouais. On nous a filé un local de 1300 mètres carrés, donc dans cette école cuisine mode d'emploi. J'ai accepté une tonne de poissons qui venaient d'une pêche solidaire des pêcheurs de l'Aude de Port-la-Nouvelle. Et on a démarré dans ces locaux avec 30 bénévoles par jour. Et là, on a maintenu le rythme pendant les 6 semaines qui ont continué jusqu'à la fin du
premier confinement. Et alors, vous dites j'ai accepté une tonne par jour. Parce qu'au début, on a bien compris que l'objectif, c'était quand même d'écouler le stock des restaurateurs avec Simon Carlier en tête. On imagine qu'à un moment donné, le stock, il s'est épuisé. D'où viennent les produits, la matière première?
Le stock il s'est épuisé très vite parce que Simon, comme ses 35 restaurateurs, travaille avec des produits locaux, frais.
Ouais.
Ils ont des petits restaurants et ils n'ont pas des grandes chambres froides pour stocker. Donc eux, au bout de quelques jours, il n'y avait plus rien.
Et alors avec quels moyens vous achetez la matière première?
Donc au début, on allait chercher sur le marché d'intérêt national. Tout d'abord, on allait voir les grossistes tous les matins entre 5h et 8h et on essayait de récupérer les invendus, les pertes,
les dons donc. Hein.
Les produits qui étaient mal calibrés. Donc que du don, ouais, que du don. Et puis il y a toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Il y a 45 fournisseurs, donc les fournisseurs de ces restaurants-là, qui se sont mis à jouer le jeu aussi, parce qu'eux n'ont plus travaillé plus, ils avaient des stocks, des DLC courtes, des produits qui arrivaient
date
en fin
de consommation.
Date limite de consommation. Et donc tous les jours, il y avait même des supermarchés, des métros, qui nous envoyaient leur liste et on récupérait les produits comme ça, comme font les autres associations, les banques alimentaires.
Et oui, donc on comprend, Simon a parlé du président qui parle de guerre. Là, on sent une grosse artillerie qui se met en ordre de bataille. Vous faites tâche d'huile auprès d'un certain nombre d'associations. Vous avez une trentaine de bénévoles, vous me dites, hein, qui vous aident. Qui va livrer les personnes dans les hôtels?
Les 30 bénévoles,
les
c'était,
30.
C'était par jour, en fait. Mais c'était plutôt une armée de 200 bénévoles qui se relayaient. Qui livre? Au début, c'est nous. Là encore, un des fournisseurs, Olivier Gastro, nous prête son camion pendant 2 mois, son camion frigorifique. J'ai failli mourir à l'intérieur, enfermé. Un jour, la porte s'est claquée.
Ouais.
Et donc, on livrait les hôpitaux nous-mêmes. Et puis, on a commencé à livrer un peu les associations. Mais là, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas notre rôle, qu'il fallait laisser ça aux associations qui sont sur le terrain. Parce que la nourriture, c'est du pouvoir aussi. Et arriver dans un hôtel ou dans un squat, la donner à une seule personne, c'est elle qui ensuite contrôle les autres à travers la nourriture.
Ouais.
Et puis c'était
c'est vrai que la livraison, c'était un petit peu le point très important, enfin, que je trouvais très important. Et c'est un peu la base de pourquoi je voulais qu'on organise. C'était vraiment pour qu'on respecte la chaîne du froid, hein, qu'on puisse livrer dans les meilleures conditions sanitaires. Donc c'est vrai que ça... Il fallait beaucoup de logistique pour d'une part récupérer la marchandise d'un côté, avant qu'on puisse s'installer aux mines, l'amener dans les restaurants, récupérer la production des restaurants et l'emmener dans les différents endroits comme les hôpitaux ou les...
Et alors, Simon Carlier, vous qui êtes chef donc, du restaurant Le Solide, on parle ensemble des Belles Gamelles, l'association Les Solides, que vous avez créée avec plusieurs restaurateurs. Alexandre Fox en est le directeur. Vous avez l'habitude d'avoir des clients qui ont un certain pouvoir d'achat. Là, vous livrez des bons petits plats à des personnes qui n'ont pas l'habitude. Comment vous le vivez? Est-ce qu'il y a un plaisir décuplé peut-être pour vous?
Oui, d'accord. Déjà de cuisiner, je parle donc tout le restaurateur, mais c'est vraiment un métier de passion. Sinon on le ferait pas.
Ouais.
Épuisé aujourd'hui. Donc effectivement de pouvoir continuer à proposer ces plats et en sachant que ça va procurer un moment de réconfort, c'est tout à fait dans l'état d'esprit de chacun qui gère ce métier.
Et pourquoi vous faites ça, vous? Parce qu'en fait, vous auriez pu... Bon, on a compris, au début, vous écoulez votre stock. Après, vous auriez pu profiter des aides de l'État, rester chez vous. Pourquoi est-ce que vous vous dites, on se retrousse les manches et il faut le faire?
Oh, mais parce que... ça, c'est... Quand on voit qu'il y a un besoin, c'est difficile de rester les bras croisés, de pas agir. Hein.
On n'a pas planifié ce qu'on voulait faire.
Hein. C'est vrai qu'il y avait une angoisse, hein, je pense, de pouvoir aider, de pouvoir être actif,
hein, ouais.
Et pas seulement être un acteur des actions qui se... pouvoir faire quelque chose, en
ouais,
fait.
Alors aider, que, se rendre utile alors qu'on était tous confinés. Alors, il y a eu, je suis obligée de reprendre la main, on ne vous entend pas très bien, Simon, mettez-vous à un endroit qui capte bien. Il y a eu, on a été déconfinés, les restaurateurs ont repris leur activité, on les comprend. C'était sans compter ce deuxième confinement qui nous est tombé dessus. La fin, on ne la voit pas, même si le président nous a dit hier que les restaurateurs pourraient rouvrir courant janvier. C'est aux mines aujourd'hui que vous vous trouvez, Alexandre Fox?
Oui.
Toujours aux mines?
Toujours aux mines, qui nous a encore une fois ouvert ses portes et où on s'y sent bien. Et en fait, on est au cœur du système des produits de la restauration. Donc, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a tous ces grossistes qui sont là, qui viennent tous les matins, tous ces producteurs, et on a accès à toute cette marchandise.
Et vous faites encore des appels. Hein. J'ai vu ce week-end un cultivateur de radis de l'agglomération de Toulouse, hein, qui a décidé de vous donner sa production, hein, c'est ça? Et des bénévoles sont allés la chercher?
Oui. Bah, en fait, il avait des radis dans son champ et qu'il pouvait pas récolter. Il a fait appel à nos bénévoles pour venir ramasser 600 kilos là, lundi matin. Et on s'est réparti ça entre nous et d'autres associations. Mais la marchandise reste le nerf de la guerre. Et en fait, dès le début, on s'est rendu compte, dès les premières semaines, que quand on est passé de 11 000 à 22 000 personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire, il fallait trouver la marchandise qui allait avec. Et les banques alimentaires avaient du mal aussi à se fournir. Et donc, rapidement, on a été chercher les pouvoirs publics, la région en tête, le département et la mairie, pour avoir des subventions et pouvoir acheter aussi de la nourriture et réinjecter cet argent dans la filière agricole qui, elle aussi, était pénalisée par le premier confinement. Cet argent a mis un peu de temps à arriver et du coup, on s'est dit, maintenant, on va continuer. On a mis le doigt sur quelque chose qui ne se faisait pas dans l'aide alimentaire, c'est-à-dire ces petits plats bons et tout prêts. Et
mitonnés, avec amour.
Qui offrent réconfort et respect à ces populations. Continuons cette action. Et on n'avait pas prévu de faire 20 000 repas en 2 mois. Au début, on était parti sur quelques jours et puis la machine s'est emballée. Et après, on s'est dit, vu le retour positif de toutes ces associations... Continuons à produire et essayons de pérenniser notre action. Donc le fait qu'on puisse redémarrer là au deuxième confinement, c'est parce que pendant 4 mois, on a préparé ce nouveau labo au marché international qui nous a prêté un restaurant. On a construit une cuisine et il se trouve qu'on était prêt juste au moment où tout ça a redémarré.
Et un jour, on est en droit de l'espérer, on sera totalement déconfiné. Quid des Belles Gamelles à ce moment-là?
Tant que notre action a un intérêt, on va continuer. Il y a d'autres populations. Là, on est en train de passer une convention avec Pôle emploi, France Horizon, le marché international, pour pouvoir accueillir des réfugiés, des gens en réinsertion, qui viendront faire des stages pendant 2-3 semaines et qui vont peut-être remplacer nos armées de bénévoles. Ensuite, malheureusement, je crois que la restauration va quand même être pénalisée par cette année difficile. Il y a beaucoup de restos qui risquent... d'avoir du mal à rouvrir, il va y encore avoir une main-d'œuvre disponible, entre guillemets, pour pouvoir continuer à pratiquer son métier, et tout en le faisant...
Mais Simon, ça veut dire que vous continuerez à faire la cuisine, quand bien même votre restaurant
sera...
Oui,
parce que je pense qu'il faut bien définir ce que nous, on cherche à apporter au travers de Belles Gamelles. Notre vocation, elle n'est pas de nourrir au quotidien les gens, hein. Je pense que ce qu'on cherche à apporter, c'est vraiment de la considération pour ces publics qui le méritent
Ouais.
au travers du repas d'un chef. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là, à un moment donné, elles ont le droit, comme chacun, mais d'avoir un moment de plaisir via des repas. Et c'est ça que l'association amène. Donc,
D'accord.
chaque semaine, un ou plusieurs chefs vont élaborer un menu qui sera dédié à une population précise. Et donc, confinement ou pas, parce qu'elle est effectivement.
Merci, on aura l'occasion du coup d'en reparler. On ne vous entend pas très très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous raconter cette belle histoire. Ça s'appelle Les Belles Gamelles. On a compris, générosité, gastronomie se sont rencontrées dans l'assiette. 20 000 repas ont été distribués. Alexandre, vous voulez dire un dernier mot?
Oui, je voulais juste rajouter, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et on a monté une plateforme de financement participatif sur Hello Asso. Et donc, il ne faut pas hésiter même à offrir un ou deux repas à travers cette plateforme pour nous aider à continuer. Parce qu'il y a quand même même si on reçoit de la marchandise, il y a des frais de fonctionnement qui sont quand même conséquents.
Eh bien, le message est passé, les repas qui réchauffent le cœur. Merci à tous les deux.
Merci Isabelle.
Au revoir.